La musique, c'est vraiment une façon de vivre et pas quelque chose qu'on fait pendant les week-ends. La musique, c'est pas seulement ce qu'on fait sur scène, c'est quelque chose à laquelle tu donnes ta vie, c'est comment tu es, comment tu vis et ce que tu fais.
La Belle Pop, Vincent Théval.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour une 158e édition de Label Pop qui sera largement consacrée au Velvet Underground, sans aucun doute possible le plus important groupe de rock de l'histoire, l'un de ceux qui, en un moment fulgurant du milieu des années 60, en a durablement bouleversé les codes et brouillé les frontières. C'est l'histoire de cette révolution esthétique qui est aujourd'hui au cœur de l'exposition New York Extravaganza à la Philharmonie de Paris et au cœur également du livre passionnant et vivifiant que les journalistes Joseph Ghosn et Philippe Azzouri consacrent au Velvet Underground. Une histoire de tremblement de terre dont l'épicentre fut New York et de répliques dont la puissance est allée grandissante au fil des décennies. Pour en parler, Joseph Ghosn et Philippe Azzouri sont mes invités ce soir en direct jusqu'à 21h30 sur France Musique.
Introduced to you.
Dorothy, c'est l'un des morceaux phares du troisième album de Kevin Morby, Singing So, qui est sorti la semaine dernière. C'est un, on peut le dire, un des meilleurs disques du printemps. Et vous notez que Kevin Morby sera en session dans la Belle Pop la semaine prochaine, avec 6 titres interprétés à la guitare acoustique et au piano. De quoi patienter jusqu'au concert, au prochain concert de Kevin Morby, en l'occurrence le 6 mai à Paris, ce sera à la Maroquinerie, et puis à Saint-Malo, à la mi-août, dans le cadre de la Route du Rock. Et alors, autre belle sortie du mois d'avril, celle du 5e album des New Yorkais Parquet Courts. On va parler beaucoup ce soir du Velvet Underground, et voilà, avec Parquet Courts, un groupe à ajouter à la liste infinie de leurs brillants héritiers. On va écouter un extrait de leur album, l'excellent Human Performance. La chanson s'appelle Dust. We'll be right back.
from who knows where. To all tomorrow's parties. And where will she go? What shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's clown and cried behind the door.
Thank you.
Le Velvet Underground, ce n'est pas un groupe, c'est cette infinie possibilité apparue une seule fois dans l'histoire de la pop, celle d'être tout à la fois littéraire et rock, expérimental et cadré, noise et mélodique. C'est par ces quelques mots que s'achève ou presque le livre de Joseph Ghosn et Philippe Azoury, intitulé très sobrement The Velvet Underground, qui vient de paraître aux éditions
exclusives. C'est pas le vrai titre.
C'est pas le vrai titre.
Il y a un titre, il faut le chercher. Sweet Sister.
Alors, on le trouve en librairie depuis quelques temps. On peut aussi voir une exposition à la Philharmonie de Paris qui est consacrée au Velvet à l'occasion des 50 ans du groupe. Je dois dire que la lecture de votre livre, messieurs, bonsoir d'abord.
Hein, bonsoir.
m'a réjoui au plus haut point. Et je le dis vraiment très, très sincèrement, c'est un livre que je recommande d'abord parce qu'il est très documenté, hein, très, très précis pour retracer le parcours du groupe, les lieux qu'il a fréquentés, les gens qu'il a rencontrés. Un livre très pensé aussi parce qu'il donne sens à quelque chose de très chaotique. Il tire des liens comme ça entre des époques et des disciplines différentes. Et puis finalement, un livre très incarné. Et ça, c'est quand même la dimension qui est la plus touchante parce qu'on sent que le sujet vous importe à l'un comme à l'autre et que le Velvet Underground a été pour vous comme pour beaucoup d'autres quelque chose de complètement fondateur. Alors on va revenir sur ce parcours chaotique. Le Velvet, donc la période d'activité, c'est la deuxième moitié des années 60 à New York. C'est un groupe à part entière, hein, on peut le dire, pas une création de toute pièce par Andy Warhol. Ça, on peut déjà éliminer.
Ça existait avant Warhol et après.
Et en revanche, c'est un groupe à part entière, mais il y a quand même deux pôles, on pourrait dire deux pôles magnétiques presque, qui sont Lou Reed et John Cale. Je vais vous demander peut-être dans un premier temps de dire un peu quel a été leur parcours et ce qu'ils apportent l'un comme l'autre de différent au sein de ce groupe. Philippe Azoury.
Lou Reed, c'est un étudiant en lettres à Syracuse, traité par ses parents qui le soupçonne d'homosexualité aux électrochocs, donc un peu abîmé, qui est hanté par la musique, fait de la radio, pas mal, radio universitaire, il passe de tout, du doo-wop, du free jazz, beaucoup de musique noire, un peu Dylan, qui l'impressionne beaucoup, sans doute pour le côté très écrit, et qui, en 64-65, écrit des albums ou des morceaux quasiment à la journée pour un tout petit label qui s'appelle Pitchwick et qui sort des copies de tubes de l'époque. Et c'est là qu'il a rencontré John Cale, Joe.
John Cale est un musicien, lui, d'origine galloise. C'est un jeune homme qui est très tôt et un peu un musicien prodige. Il est très doué. Il a une enfance un peu chahutée. Il subit des attouchements, etc. Mais il grandit dans un environnement où il fait de la musique, il s'intéresse à ça. Et à un moment, il part aux États-Unis, quelqu'un l'envoie, il gagne une bourse, etc. Je sais plus exactement, pardon. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il, quand il arrive à New York, il débarque dans un New York qui lui est un peu familier parce qu'il est, lui, dans un mouvement musical beaucoup plus savant. Il est dans de la musique contemporaine et il se retrouve à jouer notamment aux côtés de John Cage une pièce d'Eric Satie, Vexation, dont c'est la première fois qu'elle est jouée dans son intégralité. C'est une pièce très longue. Et John Cale se retrouve comme ça en couverture du New York Times pour cette performance, alors qu'il est musicien à côté de John Cage. Donc il y a comme ça.
Il a 22 ans.
Il a 22 ans. C'est ça aussi. Ils sont très jeunes. Et il se retrouve aussi aux côtés d'un autre musicien qui s'est établi à New York au début des années 60, qui s'appelle Lamonte Young, qui est un peu le père de la musique minimaliste. Et John Cale fait partie du groupe de Lamonte Young. C'est-à-dire, c'est un groupe qui joue constamment, quasiment tous les jours, qui répète dans le loft de Lamonte Young, qui fait des concerts, mais qui aussi crée une musique à partir d'instruments qui sont le violon, qui est l'instrument de John Cale, les voix, et du violoncelle parfois, mais c'est vraiment ça, le violon, et le violon électrifié.
Oui.
Et ça, c'est très important pour la suite. C'est-à-dire que dans le groupe de Lamonte Young, John Cale apprend la puissance de l'électricité et du volume sonore. Et ça, il va le passer dans le Velvet.
Ce qu'il apporte au Velvet, c'est à la fois l'amplification et l'idée de répétition. On l'entendait
dans
Tomorrow's Party, qu'on vient d'entendre, qui date vraiment de 67.
Ouais. Et il y a c'est...
qui même était prêt dès 65. Hein, ouais.
Ça, même toute la fin de Tomorrow's Party, je me faisais penser tout à l'heure, je me dis, tiens, on dirait une version du groupe de la Monte Young, quelque part. Ouais.
Alors je vois qu'on restitue... quand même la fulgurance de ce parcours, parce que bon, le Velvet maintenant c'est évidemment rentré dans la culture, le patrimoine rock, on va dire. On a donné ses bornes qui sont 65-70, mais enfin quand même ça se passe bien avant et tout se passe en quelques mois. En 65-66 et dans des lieux très particuliers.
Grosso modo, ils se rencontrent au printemps 65, ils commencent à répéter à l'été 65, tout ça dans le Lower East Side, à quelques blocs de rue l'un l'autre. Il y a les endroits où ils vivent, où ils dorment, les endroits où ils vont acheter de la drogue, il y a les endroits où ils vont répéter, mais qui sont aussi des endroits où d'autres gens font des films, font des revues de poésie tirées à quelques exemplaires. Donc c'est vraiment toute cette vie s'organise autour de comme ça, de 3-4 rues dans le Lower East Side. Et à partir de l'été 65, ils répètent. À partir de l'automne 65, ils se mettent à jouer des concerts. Et ils sont repérés par Warhol en décembre, enfin par Warhol et les gens autour d'Andy Warhol, surtout les gens autour d'Andy Warhol, à partir de décembre 65. Et ils intègrent la Factory le 1er janvier 66. Et 10 jours plus tard, ils jouent, enfin vraiment, ils sont présentés par Warhol à l'intelligentsia new-yorkaise d'une certaine manière. C'est-à-dire que en 6 mois, ils ont réalisé ce qu'aujourd'hui un groupe de rock peut mettre. Avec Internet, ce qu'on veut, on peut mettre 6 mois, enfin, on peut mettre 1 ou 2 ans à faire. C'est après que ça a été très lent, quoi. Mais le coup de feu, enfin, le départ du Velvet, c'est sidérant. Enfin, il passe même à la télévision le soir du jour de l'an, filmé quelques semaines auparavant. Enfin, c'est vraiment le groupe dont tout le monde veut un morceau à New York entre, disons, octobre 65 et mars 66.
Ah, Philippe, vous évoquiez le fait que voilà, on rencontre dans ces milieux-là des gens qui viennent d'horizons très différents, de disciplines très très différentes.
Oui, c'est complètement interdisciplinaire.
On peut dire un mot de ce qui a été un peu presque l'acmé de ces rencontres-là, qui est le Exploding Plastic Inevitable de Warhol. Ça ressemblait à quoi ?
À ce qu'on en sait, enfin ce qu'on peut en voir, parce qu'il y a quand même des traces filmées. Pas par Warhol d'ailleurs, ça c'est très étrange, ça reste encore très inconnu cette histoire-là. Pourquoi il ne l'a jamais filmé, le spectacle qu'il a lui-même imaginé. C'est le groupe en train de jouer, avec autour du groupe des danseurs, avec une fameuse danse du fouet.
Gérard Malanga,
Marie Voronov, en train de danser donc avec un truc très très sexuel, et des projections de couleurs très fortes. C'est les premiers, puisque à ce moment-là, même sur la côte ouest, les groupes psychédéliques n'utilisent pas du tout ce type de filtre, de fluide. Enfin, on voit pas ça. Là, c'est ça, avec un son qui a... Alors, est-ce que ça vient à la prise de son? Mais tout ce qu'on a pu entendre des pirates, Joseph me contredit d'ailleurs pas, je crois, c'est complètement saturé. Et vraiment une impression d'un surgissement sexuel, quoi. Faut appeler les choses comme elles sont.
Il y a beaucoup, enfin de ce qu'on en sait, effectivement des pirates, mais aussi des choses officielles. Il y a des chansons qui sont sorties, des morceaux live qui sont sortis sur des coffrets récemment, sur les coffrets notamment des 45 ans de chaque album. Il y a beaucoup d'improvisation et il y a beaucoup de choses assez bruitistes qui sont dans la recherche, dans la construction, quasiment dans le processus. Sur le moment, en fait.
Ouais, organique. La danse commence, elle est sexuelle et le groupe se met à improviser.
Il y a par exemple un morceau qui s'appelle The Nothing Song qui dure une demi-heure, un autre qui s'appelle The Laughter Song, je crois, qu'on trouve maintenant assez facilement. Et on entend vraiment le groupe en train de construire. Alors, quand on a découvert ces morceaux-là dans des bootlegs dans les années 80, on disait qu'ils étaient là pour faire des BO à des films diffusés, mais on comprend aujourd'hui que c'est vraiment le groupe qui se construisait vraiment sur scène comme ça.
Et les répétitions filmées relèvent du même ressort. Enfin, c'est des morceaux d'une heure, une demi-heure avec des recherches.
Myriad choices of his fate set themselves out upon a platform to choose. What had he to lose? Not a ghost bloody country all covered with sleep, where the black angel did weep. Not an old city street in the east. Gone to choose. And one
earrings, brother, walk on through the night with his hair and his face, long, long, splinted cut from a knife. A GT. The rally man's patter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yell. Shining brightly red-rimmed and red-lined with the time fused with the choice of the mine on ice skate scraping chunks from the bills. Cut mouth bleeding razors forget in the pain. Antiseptic remains cuckooed by. So you fly to the cozy brown snow of the east. Gone and choose, choose again. Sacrificials remain, make it hard to forget where you come from. The stools of your eyes serve to realize fame. Choose again. And robe men's refrain of the sacrilege recluse for the loss of a horse with the bowels and the tail of a rat. Come again. Choose to go. And if epiphany's terror reduced you to shame, have your head bobbed and weave. Choose a side to be on. And if the stone glances off, spit didactics into leave the color of mouse trails all screen. Try between if you choose. If you choose, try to lose. For the loss of remain, come and start. Start the game. I chi-chi, chi-chi I. Chi chi chi, kata ko. Choose to choose, choose to choose, choose to go.
Vous écoutez Label Pop sur France Musique, à l'instant White Light, White Heat, la chanson qui donne son titre au deuxième album du Velvet Underground en 1968. Je suis toujours en compagnie de Philippe Azoury et Joseph Ghosn qui viennent de faire paraître un excellent livre sur le Velvet. Qu'est-ce qui distingue à ce point les chansons du Velvet du reste
de la production de l'époque, hein,
66, 67, 68
son actuelle modernité, j'ai l'impression. Là, c'est marrant parce que c'est les morceaux presque, enfin, je sais pas pour toi Joseph, mais moi j'ai quasiment peu réécouté parce que j'avais l'impression de les connaître par cœur et que pour écrire dessus j'en ai pas besoin. Même si au final on a passé quand même, je pense, l'été dernier entièrement immergé là-dedans, ouais. L'automne dernier aussi. Mais là, je sais pas si c'est le son de la radio, l'ampli qu'il y a, mais j'ai l'impression, ça fait deux fois que ça me le fait là, depuis le début de l'émission, que j'écoute ces morceaux pour la première fois. Enfin, surtout sur les fins de morceaux, je me dis.
Oui, les fins de morceaux sont incroyables.
C'est dément.
Oui,
quoi. Oui. On réécrit le livre, là, franchement. Vincent, merci. On va te quitter maintenant parce qu'on a encore des trucs à refaire. Non, mais vraiment, quoi. C'est vrai qu'on nous l'a aussi beaucoup demandé, enfin, les comparaisons possibles avec les groupes de l'époque, les Beatles, évidemment, les Stones, les Kings, dont ils se sentaient eux-mêmes assez proches, parce qu'ils avaient, c'est potentiellement même le seul groupe de cette période-là sur lequel il n'est pas craché. Essentiellement, ce qui semble aujourd'hui étonnant, c'est à quel point ce groupe-là a anticipé, ou enfin a livré l'ADN de ce qu'allaient être les années 80, plutôt, pour nous.
Quoi. Oui. C'est vrai que là, en réécoutant ces deux morceaux, je vois vraiment une notion de passage et d'ouverture vers quelque chose qui va arriver, c'est-à-dire quand on écoute Black Angel Death Song, le premier morceau là, j'ai l'impression d'entendre, effectivement, il y a un petit côté Dylan, mais il y a surtout un petit côté jazz modal, c'est-à-dire avec une espèce de rythmique et la voix de Lou Reed qui remplace quasiment le saxophone de John Coltrane, mais ça annonce totalement autre chose, et ça annonce pour moi notamment tous ces groupes, ou en tout cas ces musiciens japonais très très noise, etc., très 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 armés de leur guitare, qui arrivent dans les années 80, 90, et même 2000, et ensuite White Light, White Heat. Quand on l'écoute comme ça un peu de loin, on a l'impression que c'est un rock'n'roll un peu mal enregistré. Ouais, sauf que en fait non, c'est effectivement la base est là, mais c'est tout à fait autre chose. Et ce morceau-là, quand on l'écoute, on entend déjà Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine,
Space Man 3,
enfin on entend tout ce qui va arriver et tout ce qui encore résonne aujourd'hui, c'est-à-dire des choses comme toute la scène californienne autour de Burger Records, etc.
Ouais, ouais.
Tout est en fait, dans ce morceau-là, c'est ça qui est assez étonnant avec le Velvet, c'est-à-dire que à quel point ça prend peut-être des choses de leur passé à eux, mais c'est tellement actuel et tellement moderne. C'est ça l'écriture.
Ouais. Et en termes de mode de vie presque ou d'image, on a quand même là un truc qui casse très nettement avec ce qui se passe. Presque au même moment, en 67 sur la côte ouest. Là, je reprends une citation du livre qui parle du Velvet et notamment de la vie dans la factory, qui dit que c'est une communauté, mais qui fait tout à rebours des utopies bienveillantes et semi-crasseuses des hippies. Ici règne la communauté du chaos cruel, de la défiance et de l'arrogance, du speed et de la liberté sexuelle, des sournoiseries et des petites jalousies. On est quelque chose dans quelque chose de nettement plus plus noir.
Non, mais là, ce week-end, je finissais de lire le livre magnifique par ailleurs de Annie Ernaux, Mémoire de fille, qui se passe en France entre 58, c'est surtout autour de l'été 58 et ça pousse qu'à 60. Donc c'est-à-dire on est 4 ans, 5 ans avant le Velvet. Et j'ai l'impression à lire Annie Ernaux et je pense que ça recoupe ce que je vois dans le cinéma de cette période-là, qui est juste avant la Nouvelle Vague. J'ai l'impression que la France, à ce moment-là, par exemple, c'est quasiment le Moyen-Âge par rapport à ce que, à New York, entre quatre rues et, a fortiori, dans la factory d'Warhol, et dans laquelle, donc, le Velvet a plus qu'un rôle à jouer, s'invente en termes à la fois d'expérience, on l'a dit, sur les drogues, mais sur les sexualités, sur les transsexualités, plus que tout, sur le rôle d'une femme à jouer à l'intérieur d'un groupe, sur la façon, finalement, très cru de tout revendiquer et de ne rien cacher. Et c'est parce qu'on fait la promo en ce moment, et je lis avec délectation le livre d'Annie Ernaux chaque jour, mais en me disant, j'ai l'impression qu'il y a un écart de 95 ans entre la France en 59 et le New York de 64, 65, 66, 67 dont il parle. Mais quand on regarde effectivement la côte ouest, c'est-à-dire San Francisco essentiellement, ou Los Angeles c'est encore un peu particulier, mais San Francisco beaucoup avec toute la grande scène hippie, Haight-Ashbury, etc., on a aussi l'impression qu'ils sont complètement à l'opposé de ça. Enfin, il revendique l'attention, le dur, la noirceur tout le temps, des choses qui viennent quand même essentiellement aussi... On a dit beaucoup de l'héroïne parce qu'ils ont chanté l'héroïne, mais le speed qui prenait bien plus que l'héroïne et qui est une drogue précise et dure, enfin là-dessus, c'est vrai que c'est quasi unique. Enfin, on ne voit pas, en dehors de la littérature américaine de cette période-là, un tel vivier d'invention, de vie, et des choses qu'effectivement on a retrouvées après tout au long des années 80, 90, 2000.
Et alors, même quand c'est doux, c'est noir.
Oui.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello. You're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains look green-gray in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.
La fausse candeur de Mo Tucker, la batteuse du Velvet Underground sur After Hours, le titre qui clôt le troisième album du groupe qui paraît en mars 69. Alors si on revient un tout petit peu en arrière, Nico, la chanteuse qui interprète trois titres sur le premier album, est partie assez vite. John Cale est viré, lui, après le deuxième album en septembre 68. Donc là, maintenant, Lou Reed est seul maître à bord. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, le Velvet devient un groupe comme les autres ?
Non,
pas du tout. C'est exactement le contraire. Enfin, le Velvet n'a jamais été un groupe comme les autres. Ça, enfin, sur aucun album, pendant les 5 ans, le Velvet n'a jamais été un groupe comme les autres, à tous les points de vue.
C'est pour ça que ça n'a jamais marché.
Voilà, ouais, ouais. Là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, John Cale est viré. Donc, Lou Reed et mettre à bord, mais il est pas le seul, parce qu'il y a encore les autres membres du groupe. Le son effectivement change, mais le son a changé aussi entre le premier et le deuxième album. Il s'est endurci, et là le son redevient plus calme ou plus doux peut-être. Mais les chansons n'ont pas changé.
Calme,
pas doué. Doux n'est pas le bon mot. C'est plus calme. Mais on dit aussi que c'est devenu plus calme parce qu'ils se sont fait voler leur pédale de distorsion. Donc c'est peut-être un peu contre leur volonté. Mais en tout cas, c'est vrai que il y a un changement. Mais il y a aussi un changement entre le troisième et le quatrième album. Il y a des changements. Il y a toujours des changements entre les disques du Velvet. Mais ce qui demeure, c'est que, enfin, à mon sens, et je pense que Philippe sera d'accord, ce troisième album et peut-être leur plus beau, enfin c'est un vrai chef-d'œuvre, mais c'est un chef-d'œuvre vraiment de tension, sans doute encore plus que que tous les autres. C'est-à-dire que dans les autres, dans White Light White It, la tension elle est entre eux, on les sent jouer les uns contre les autres, notamment dans le morceau Sister Ray. Il y a une bagarre, mais là le combat, la violence, elle est interne, elle est dans chaque morceau, elle est dans les paroles, elle est dans l'ambiguïté de chaque mot quasiment. Une chanson comme I'm Set Free qui est centrale dans ce disque là, elle est entièrement sur ça. Elle dit je suis libre mais je suis libre de trouver une nouvelle illusion. Et même ce morceau là After Hours, c'est ça me, enfin du coup je il me fait penser au premier morceau qu'on a écouté tout à l'heure, All Tomorrow's Parties. Il y a, pour moi, je vois la ligne entre les deux, c'est-à-dire que ce groupe-là était certainement le seul, ou en tout cas le premier, j'en suis persuadé, à arriver à traiter ces sujets qui sont d'une gravité extrême avec une légèreté incroyable, et l'inverse. Et ça, la modernité, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. tout le monde dit, même nous qui sommes confrontés, enfin qui travaillons sur ça tous les jours, puisque nous travaillons dans un magazine qui fait ça, enfin. On parle tous les jours aujourd'hui de ça, de faire des choses légères avec un ton sérieux et faire des choses sérieuses avec un ton légère. Mmh. Mais le Velvet avait tout compris à ça et tout est là. Enfin, After Hours, c'est exactement cela. Stephanie says that she wants to know why she's given half her life to people she hates now. Stephanie says, when answering the phone, what country shall I say is calling from across the world? But she's not. It's all in her mind. It's all in her mind. Stephanie says that she wants to know. She wants to know why it is, though she's the door. She can't be alone. Stephanie says, but doesn't hang up the phone. What seashell sea is calling from across the world? But she. Between worlds, so the people ask her, 'cause it's all in her mind. It's all in her mind. They're asking, is it good or bad? It's such an icy feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska.
Vous écoutez La Belle Pop sur France Musique. On va pas dérouler l'histoire du Velvet jusqu'au bout. Ça se termine sur un concert, à l'issue duquel Laurie rentre chez ses parents, très simplement. Il y aura un album Loaded qui est souvent, donc qui sort en 70, qui est souvent mésestimé, qui est un très très beau disque.
Sublime disque.
Et alors ce titre, qui date de qui est un titre inédit à l'époque, qui est enregistré en février 68 avec John Cale au violon, qui s'appelle Stephanie Says, il va apparaître dans une autre version, un autre enregistrement sur l'album Solo de Laurie, Berlin en 73. Cette version, on l'entend pour la première fois sur la compilation Vue qui sort en 85,
je crois. Ouais, à l'automne 85.
Alors, on va dire un petit mot quand même sur cette historiographie du Velvet Underground. Vous avez une très très jolie formule dans le livre. L'histoire du Velvet Underground est le plus long post-scriptum de l'histoire de la musique.
Oui, c'est vrai. Non, parce que le groupe n'a jamais joué en dehors des États-Unis et du Canada. Donc, il est devenu une source de fantasmes pour tout le monde. La première fois qu'il a partiellement rejoué, c'était en 72 au Bataclan, Lou Reed, Nico et John Cale. Et et déjà, le groupe connaissait une sorte de culte en France à travers notamment des critiques comme Yves Adrien ou un ou deux ans plus tard, Alain Pacadis. Il y a vraiment une première comme ça, réhabilitation, en tout cas française. Il y a une historiographie française très très propre, enfin, différente des Anglais sur ça.
Les Anglais ont eu Bowie.
Les Français ont eu Yves Adrien et l'émission Pop 2. Les Anglais ont eu Bowie, qui a fait œuvre de rock critique, finalement, en exhumant complètement le Velvet. Et puis, il y a eu tout le début des années 80, c'est-à-dire la New Wave. Et effectivement, l'électrochoc, et là, en plus, on pourrait parler, je pense, Joseph comme moi, on était encore de tout petits adolescents, mais déjà infectement branchés et achetant ce genre de choses, et d'avoir acheté Vue. D'avoir effectivement, c'est le premier morceau de la première phase de Vue, c'est Stéphanie 16, et se dire qu'est-ce qui se passe, enfin, mais une fois de plus, je crois qu'on n'a pas arrêté d'en reparler, pas du tout comme si on avait acheté une vieillerie, un truc de 67 réexhumé. C'est-à-dire pour nous, on achetait ça ou Spaceman Free, c'était mais strictement la même chose.
Oui, c'était d'une réelle actualité à ce moment-là. Enfin, le son, les chansons, ce que ça racontait, c'était de 85. Et tout comme c'est encore de 2016 quand on l'écoute aujourd'hui. Et c'est vrai, comme le disait Philippe, il y a une historiographie française. Enfin, en tout cas, il y a une histoire française du Velvet, parce qu'il est beaucoup repassé par la France. Le premier disque pirate du Velvet, ouais, est un disque français il sort sur le label Sky Dog. C'est un disque non officiel, mais on dit que Lou Reed aurait donné les bandes. Enfin, il y a une histoire comme ça, et la vraie reformation du Velvet, elle se fait en 1990 à la Fondation Cartier.
Et elle se fait sous les yeux des Inrecuptibles, qui était à l'époque mensuel, de Christian Feuvray, qui est le co-commissaire et vraiment initiateur de l'expo à la Philharmonie. D'un coup, le Velvet devient la base et le socle esthétique de tout. C'est même plus la New Wave, parce qu'on appelle plus ça la New Wave, de toute l'école C86 qu'il y a en Angleterre, quasiment qui va donner le showgazing. Donc, c'est d'ailleurs l'origine, malgré tout, de la techno en Angleterre, enfin, ou de quelque chose de beaucoup plus sec aux États-Unis, avec des groupes qui étaient très très minimalistes. Enfin, tout ça est là et rejoué, quoi.
Et ce qui est marrant, c'est que ça le Velvet est sans doute la seule chose qui relie l'école rock and folk à l'école un rock. C'est vraiment ce groupe-là qui fait le lien, en fait, entre ces deux écoles qui sont quand même des générations opposées, avec des écritures et des formats opposés.
Sur cette histoire finalement œcuménique, je renvoie les auditeurs de la Velvet Pop à votre livre, Philippe Azoury et Joseph Gone, The Velvet Underground, paru aux éditions Actes Sud, et son vrai titre, Sweet Sister Ray. Et puis les Parisiens sont invités à se rendre à la Philharmonie pour voir la très belle exposition qui a lieu jusqu'à la fin du mois d'août. On écoute maintenant une reprise du Velvet, la fameuse chanson I'm Set Free que vous évoquiez, reprise sur le nouvel album de Brian Eno.
Yesterday's clouds. I've been set free and I've been bound, and now I'm set free. I'm set free. Walks right by me, and now I'm set free. I'm set free. I'm set free.
Shine a light.
Vous écoutez Label Pop sur France Musique et tout de même, il fallait bien rendre hommage à Prince qui est disparu jeudi à l'âge de 57 ans. Et ça, c'était un extrait de l'album Diamonds and Pearls sorti en 91, qui est à mon sens son dernier bon disque. On doit être un petit peu difficile. Joseph, quelques mots sur Prince?
Oui, Prince, pour moi, c'est vraiment les années 80. C'est-à-dire, il les ouvre en 82 avec 1999 et il les termine en 90 avec Batman, puis cet album Diamonds and Pearls, même si j'en suis moins fan. C'est son œuvre est vraiment là. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que l'œuvre en elle-même, elle est beaucoup plus vaste, et donc on va mettre quelques années à découvrir ce qu'il a fait. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est important et intéressant, c'est que je pense que Prince est impossible à refaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a mis quand même, avant d'arriver à 1999, trois albums avant. Il y a eu quatre albums, donc il y a eu plusieurs années. Et je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'a le temps d'arriver à cette maturation, et c'est ça aussi qui est intéressant.
Avec dans l'idée, là aussi, de quelque chose qui est assez propre aux années 80, de mélanger énormément de sources musicales différentes.
Il a beaucoup mélangé, c'est-à-dire qu'il a beaucoup repris de la musique noire, évidemment, mais il a aussi beaucoup innové en adaptant à la fois ce qui se passait autour de lui, un peu de hip-hop, etc., et puis il a écouté, mais surtout en s'emparant de boîtes à rythme, en les incorporant vraiment, en les utilisant de manière très, très, très neuve, et ça a beaucoup influencé notamment les Français dans la prod, et surtout aussi en incorporant des thématiques sexuelles, et notamment sur l'ambiguïté sexuelle, le genre, les transgenres, etc. Et ça a été assez neuf et très révolutionnaire et encore très moderne par rapport aux années 80. Donc c'est pas Prince, ce n'est pas uniquement la nostalgie, c'est vraiment encore quelque chose d'assez moderne.
Merci beaucoup pour ces quelques mots sur Prince, Joseph Gonneau. Générique de l'émission ce soir, soit Boukorsa à la réalisation, José Bernays à la technique avec Annick Champagne, Cyril Zvetosevitch au droit et Jean-René Bonissant pour le site. Merci à toute l'équipe.